Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur un Comic City spécial fête de Noël, un spécial que l'on vous avait promis depuis longtemps. Il s'agit d'un spécial sur les séries télé. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez regardé le titre de l'article, le nom du fichier que vous avez téléchargé ou autre. Mais c'est pas grave, on aime bien le dire pour les gens qui téléchargent à l'aveugle.
Ou qui téléchargent illégalement.
C'est vrai que j'ai déjà retrouvé des Comic City sur des fichiers, sur des sites torrent.
Ouais. Télécharge-le à l'aveugle, faut être doué quand même, parce que du braille sur un écran...
Ah, Daredevil le fait, lui. En tout cas, voilà, vous avez entendu les voix des gens qui vont m'accompagner ce soir, la voix sulfureuse et douce de Nono.
Bonsoir, les enfants.
Et la voix tout autant sulfureuse et douce de Marty.
Salut!
Ah, ou pas.
Ou Patrick Bruel, on sait pas encore.
Oh merde, j'ai bluffé.
Eh bien donc, comme on vous l'a dit, on va parler de séries ce soir. C'est une émission que vous attendiez. Vous nous l'avez réclamé, on l'avait fait l'année dernière, ça vous avait vraiment plu. C'était une émission qui avait vraiment bien marché au niveau des téléchargements, en tout cas. Et vous nous l'avez redemandé, et justement, on avait envie de le faire. On essayait de trouver un moment. Ben, le meilleur moment, c'est de vous le faire en petit cadeau pour les fêtes, pendant que nous sommes en repos.
Oui, et puis c'est l'occasion également de faire le bilan de mi-saison.
Donc, voilà, d'essayer de binge-watcher un petit peu certaines séries que vous auriez ratées du début de la saison, pourquoi pas, pendant qu'ils sont encore en break d'hiver pour certaines.
Oh, pour beaucoup. Hein.
Ah, certaines reprennent très tôt cette année. Hein. On a des reprises de séries dès le 4 janvier.
Oh putain.
Bon, faut dire aussi qu'il y en a certaines qui ont déjà fait des petits breaks avec Thanksgiving et ce genre de choses.
Oui.
En général, le début du break d'hiver, oui, commence à partir de Thanksgiving. Entre Thanksgiving et la mi-décembre. Suivant les arcs, suivant la programmation des chaînes, etc. On va pas trop perdre de temps pour cette petite émission. On va démarrer avec ce qui nous touche le plus, les séries comics. Parce qu'il y en a beaucoup cette année.
Et non pas les séries comiques.
Non, alors ça, il y en a encore plus. Après, le comic est pas forcément drôle.
Non.
On en a vu des saisons comme ça cette année. Mais.
Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont aussi drôles sans le faire exprès.
Ah, tu aurais un exemple peut-être.
Cette année, ouais, il y en a peut-être une cette année qui parfois est un peu trop drôle sans le vouloir.
Ah bah vas-y.
Ah bah moi je pensais à Gotham.
Oh, ce trash gratuit qui commence. Oui, Gotham est une des séries de l'année, une des séries comics de l'année. Beaucoup de promotions dans cette série.
Oui, et je pense que je vais aller à contre-courant parce que cette série me plaît énormément. Je la suis avec grand plaisir. Et, en fait, c'est typiquement le type de série qui surfe sur un thème bien connu, qui est, pour faire un pitch rapide, c'est le commissaire Gordon, la vie du commissaire Gordon et la jeunesse de Bruce Wayne. Mais c'est la série qui s'appuie sur, on va dire, une thématique connue, donc la thématique de Batman, mais qui s'en éloigne. Et je trouve que c'est pas plus mal, en fait. Alors, j'ai cru entendre dans les différentes autres émissions que effectivement Steve t'avais pas super accroché.
C'est-à-dire que pour une série Batman, non. Pour une autre série, ça passe.
Voilà, et moi en fait, je le prends comme une autre série qui fait des clins d'œil à Batman. C'est-à-dire qui fait des clins d'œil à tout l'univers de Batman et qui casse un peu le lore de Batman, c'est-à-dire tout le background et toute la continuité de Batman, parce que voilà, le fait que Selina Kyle, Catwoman, va habiter au manoir Wayne quand elle est gamine, que voilà, il y a plein de trucs comme ça qui n'ont, qui s'éloignent complètement du background de Batman, mais je trouve ça pas plus mal. Je rapprocherais ça un peu de Walking Dead. Dont la série prend beaucoup de liberté par rapport aux comics, et on s'y fait, et on se dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de trucs qui sont rajoutés, il y a des trucs qui sont pas très fidèles aux comics, et en même temps, ça nous va, et Gotham, moi, je le prends de la même manière.
Pour Walking Dead, je trouve que l'exemple est quand même... C'est différent avec Walking Dead parce que ce sont quand même vraiment les mêmes personnages mis dans la même situation, etc. Là, pour Gotham, ce qui me dérange beaucoup... c'est que c'est plus ou moins inspiré de Batman. Et ça nous a été vendu comme la série Batman Origins, quoi. C'est vraiment ça. Batman Kids. Presque. Bah, là, moi, j'ai la jeunesse de Batman, la jeunesse.
Ouais, mais regarde, regarde, par exemple, Walking Dead, sans spoiler, en même temps, le spoil a lieu si vous avez pas regardé la saison précédente. Mais Andrea, elle meurt alors que dans le comics, elle est toujours là. Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça où.
Bon, de toute façon, ça a été dès la première saison quand on a su quelle était l'infection qui avait transformé les gens en zombies, quoi.
Oui. Oui, bah, oui, tout à fait.
On n'a pas d'origine précise pour cette infection. On nous dit que c'est une infection sans non plus vraiment nous dire quelle est son origine. Donc, ils peuvent très bien revenir sur ce qu'ils ont dit. C'est laissé quand même dans l'expectative, je trouve.
Je sais pas. Moi, j'ai... Pour ce qui est de Walking Dead, personnellement, moi, j'ai arrêté depuis longtemps parce que ça ne me convenait pas. Pour ce qui est de Gotham, je suis un petit peu en retard de 2-3 épisodes, mais ça me gêne pas. Si je les vois pas tout de suite, ça me dérange pas, quoi.
Bah ouais, moi, c'est une de mes bonnes surprises de cette année, la petite Gotham.
Oui, alors, j'ai trollé Gotham en commençant, mais honnêtement, j'aime bien aussi. En fait, je trouve que c'est un peu en dents de scie. Vous avez des épisodes qui sont assez exceptionnels. Je crois que c'est le 7 ou le 8, celui où Gordon et Bullock essaient de faire un gros coup par rapport à leur enquête. Il y a des épisodes un peu qui sont vraiment géniaux, et d'autres qui parfois sont assez plats, avec des scènes qui frisent le ridicule. Mais ça, je trouve que c'est en général le problème des séries qui sont sur une vingtaine d'épisodes. Il faut malheureusement boucher des trous.
Oui.
Donc c'est peut-être ça. Plus le temps passe, plus je deviens vraiment fan des séries qui sont entre 10 et 13 épisodes, car les scénaristes vont vraiment se concentrent vraiment sur l'essentiel des storylines et se perdent pas trop en épisodes bouche-trou de remplissage. Et c'est peut-être ce qui manque dans Gotham.
Bah, le problème de Gotham, c'est qu'on connaît déjà la finalité aussi.
Bah, d'où l'intérêt des changements, comme disait Nounou avant. Moi, je suis très content des trucs comme Selina Kyle qui va habiter au Manoir Wayne. Je veux dire, l'histoire des comics, on la connaît. On a déjà eu des adaptations filmographiques plus ou moins proches.
Oui, et puis avec tous les animes également qui ont pu sortir. Je veux dire, DC est quand même très prolifique en anime. Donc,
oui, voilà, c'est un peu le même problème qui se pose avec, par exemple, le reboot des Spider-Man où on change des trucs par rapport au précédent de Raimi, les gens gueulent, mais en même temps, on a déjà eu un premier film qui était fidèle, donc autant que le suivant nous offre autre chose. Et c'est pareil pour cette série qui surfe sur un univers où on a déjà eu 2, voire 3, si on compte c'est les années 60, interprétations au cinéma et plusieurs en anime.
Ce qui me fait chier, moi, dans cette série, c'est qu'aucun personnage ne peut être en danger. Aucun.
Mais justement, c'est peut-être là qu'ils vont réussir à nous surprendre. Je veux dire, imagine, à la fin de la saison, Bullock il meurt. Ah ben on va se dire, merde, là effectivement, ça prend une autre direction et ça va peut-être nous présenter un autre Batman et un autre Gotham que celui qu'on connaît, parce que là effectivement, pour l'instant, ça se rapproche plus ou moins de ce qu'on connaît avec quelques variances tout de même. Mais le fait justement de prendre des libertés, après on est sur la Fox, donc les libertés, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Regarde, Walking Dead, ils ont réussi à nous surprendre, surtout sur les 2 dernières saisons qui pour moi sont vraiment au-dessus du lot par rapport aux 3 premières. Ils ont réussi à apporter des nouveaux trucs qu'on ne connaissait pas vis-à-vis du comics et à nous faire vraiment accrocher à des nouveaux personnages. Regarde par exemple Daryl Dixon sur Walking Dead, c'est un personnage qui à la base n'était pas dans le comics et qui est quasiment le personnage préféré de tous ceux qui regardent la série.
Mais ça a été annoncé dès le départ pour Walking Dead que ça allait prendre un chemin différent. Or, pour Gotham, on nous a clairement annoncé dès le départ qu'on va nous raconter la jeunesse de Bruce Wayne avant qu'il devienne Batman.
Enfin, pas que la jeunesse de Bruce Wayne, c'est aussi l'histoire de Gotham avec notamment des histoires centrées sur les flics de Gotham et sur la pègre.
C'est un peu un Gotham central édulcoré, hein, de toute façon.
Bien sûr.
Mais en même temps, la Fox, ils pouvaient pas non plus faire un Gotham Central comme on le connaît.
Je vais être un peu méchant, mais c'est un Gotham Central à la pisse, quoi. C'est là le problème.
Le principal problème, c'est que c'est sur la Fox.
Ouais.
C'est ça.
Je pense que ça serait sur une autre chaîne et il y aurait plus de liberté de prise.
Bon, bah, ils auraient fait un Gotham Central vraiment. Ça aurait été beaucoup mieux. Bon, et ils pouvaient très bien jouer avec l'ombre de Batman sans jamais nous le montrer, quoi.
C'est la chose qu'on espérait un peu tous, je pense.
Ouais, mais l'ombre de Batman, sachant que ça se passe dans la jeunesse de Bruce Wayne,
oui, non, mais parce que là, ils ont pris ce parti pris là, mais ils auraient dû faire un Gotham Central au temps présent avec un Batman actif dans la série, point, quoi.
Ou alors commencer avec façon Year One avec Bruce Wayne qui vient juste de revenir et qui n'a pas encore élaboré le costume.
Ouais, mais enfin là, ça aurait été peut-être trop se rapprocher de Smallville. Pour nous faire attendre 10 ans avant qu'il enfile son putain de costume.
Ouais.
C'est pas aussi cucul à praline que Smallville non plus.
Mais justement, la CW et Smallville, ce sont les autres séries qui marchent en comics, à savoir Arrow et la petite nouvelle The Flash.
Ouais.
Ah, The Flash, l'excellente surprise de la rentrée. Enfin, je sais pas si ce que vous en pensez, bah, mais pour moi,
hein,
je
développe,
suis...
hein, je t'en prie.
Ah, mais je suis agréablement surpris, car avec Arrow, au début, on avait commencé avec un univers qui se voulait sans super-pouvoir. Arrow surprenait, car pour une série de la CW, malgré le côté tout le monde c'est des beaux gosses, excusez ma locution, mais c'est un peu comme ça que je me représente les séries CW, Arrow était très violente, il y avait des morts, Arrow était sans pitié, il n'hésitait pas à torturer des gens. Et là, Flash prend le contre-pied. On commence avec du super-pouvoir dès le début, et surtout cette espèce de scène post-générique un peu à la Agent of S.H.I.E.L.D. qui nous met tout de suite la barre très très haut par rapport à ce qui nous attend pour le reste de la saison. On a des concepts qui dépassent les simples petits super-pouvoirs. C'est vraiment...
Et puis là, c'est vrai que...
Je peux rien dire, ça serait spoilé, mais...
Flash et Arrow, c'est deux séries sœurs, on peut le dire. Hein, parce que
Flash est un spin-off.
Oui, Flash est un spin-off de Arrow, et dès la première saison, ils n'hésitent pas à faire des crossovers. Et ça, c'est quand même super appréciable de se dire, on a une série qui vient de Arrow. Moi, j'appellerais, c'est un spin-off, mais c'est un spin-off voulu. Tu vois, c'est pas un spin-off comme le Better Call Saul de Breaking Bad, en se disant, tiens, je vais peut-être faire un spin-off là-dessus. La Flash a été introduit en se disant, on va faire un spin-off derrière.
Mais ils ont fait un backdoor pilot avec Flash. C'est du même type que les CSI, que les NCIS. Le même type de spin-off.
Ouais, carrément.
Mais ils ont très bien préparé le chemin pour Flash.
Ouais.
J'ai envie de dire la piste de course pour notre sprinter préféré. Et Arrow surtout s'est modifié depuis que Flash est apparu et qu'il a des super pouvoirs. Le fantastique commence à entrer dans Arrow, mais de manière assez naturelle. Ils ont commencé ça la saison 2 avec le Mirakuru. Ils sont vraiment rentrés par la petite porte en présentant juste des surhumains à la force décuplée. Et maintenant avec Flash, on a vraiment la porte ouverte à des pouvoirs un peu plus grandiloquents, si l'on peut dire. Et ça s'enchaîne vraiment très bien.
Ouais. Rien de plus à ajouter sur Flash ou Arrow.
C'est deux. Arrow continue sur sa très bonne lancée. On l'a répété. Hein, on l'a répété plusieurs fois que ça met du temps à démarrer Arrow. À partir du moment où on sait que c'est renouvelé, où la chaîne a su que la série était renouvelée, ils ont mis les moyens et ça s'est senti tout de suite. La deuxième saison était très bonne, la troisième saison l'est également. Et Flash vraiment démarre. De toute façon, on le voit sur les audiences de la CW. Hein, les deux premières séries de la chaîne. C'est The Flash en premier et Arrow en deuxième.
Donc, fait un démarrage canon Flash, hein. Ouais. Vraiment sans jeu de mots.
Sur les chapeaux de
roue.
C'est vraiment une des meilleures audiences de la CW.
Ouais, ils plafonnent à 3,9-4 millions par semaine.
Ce qui est beaucoup pour la CW, rappelons-le.
Oui, parce qu'à comparaison, Arrow, il est à 2,7.
Par contre, Arrow, je trouve que la saison 3 a quand même eu un peu de mal. Elle est un peu en dents de scie jusqu'au dernier épisode de la mi-saison qui était juste incroyable. Vraiment, j'étais un peu déçu des avant-derniers épisodes. Et là, celui de la semaine dernière m'a, comme dirait Sam, il m'a mis par terre. Littéralement. Je dirais même qu'il m'a fait chuter de très haut. Petit clin d'œil à l'épisode.
Attends, j'y suis pas encore.
Autre série comics de l'année qui a démarré sur NBC, une série qui ne marche vraiment pas très bien. Il s'agit de Constantine.
Alors Constantine, j'ai regardé le premier, je me suis endormi dessus, et du coup je suis pas allé voir plus loin. Mais je sais qu'elle continue. Est renouvelée, elle est renouvelée, et en plus il a changé de case horaire, donc c'est que la chaîne y croit.
Bah de toute façon ils avaient plus que ça à faire, hein, parce que déjà ils l'avaient mis sur une case horaire qui puait du cul, hein, clairement. Le vendredi à 10h, c'est là où les séries vont mourir.
Ouais. Et là, il a remettre le vendredi en prime time.
C'est déjà mieux.
Ouais.
Rappelons que le vendredi aux États-Unis, il y a beaucoup de matchs de foot, les gens sortent, etc. Et c'est une série diffusée le vendredi a déjà assez peu de chance.
Ouais.
Et franchement, elle mérite cette série. J'ai été assez décontenancé au début. Le premier épisode m'a plu, le second un peu moins. Et puis très très vite, cela s'accélère. Je l'avais dit dans les commentaires d'un Weekly News. Vraiment, la série devient graphique, comme tu aimes bien le dire, Steve, et aussi plus profonde. Et il y a une certaine continuité qui s'établit entre les épisodes, qui est très bien construite et qui donne vraiment envie d'aller plus loin.
J'ai envie de dire, c'est quand même le minimum aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, d'avoir une continuité entre les épisodes, faire une série. Hormis pour des sitcoms ou des dramas procédurales, faire une série sans continuité, c'est se tirer une balle dans le pied.
Ouais, c'est clair. sur des séries comme
c'est,
ça. Ouais.
C'est la mode aujourd'hui. Enfin, ils se tirent une balle dans le pied en faisant de la continuité parce que les gens peuvent pas prendre la série en cours, mais ils se tirent une balle dans le pied s'ils la font pas parce que les gens iront regarder autre chose en se disant, bah, c'est pas grave si j'en rate un.
Bah, c'est de la continuité pas trop lourde, mais c'est plutôt du genre, on peut suivre la série si on en loupe un de temps en temps, mais il vaut mieux tout voir pour être sûr de tout comprendre.
Ce qui me dérange par contre, c'est que même s'il y a une bonne idée, hein, le changement de case, ça portera peut-être plus d'audience, en prime time, il y a de fortes chances que la violence soit édulcorée.
Ouais. Et notamment, il y a rien que cette histoire de cigarette, ils essaient de la contourner un peu en faisant fumer Constantine, on le voit genre juste allumer une clope ou l'éteindre, on le voit jamais vraiment fumer, et même rien que ça risque de disparaître s'il passe en prime time.
Ils peuvent lui mettre une cigarette.
Ouais, ouais,
ah, je sais pas comment est la loi aux États-Unis par rapport à ça. En revanche,
en tout cas,
la dernière. Je t'en prie. Excuse-moi.
Oui, je voulais juste dire. Juste pour dire, Constantine, je la mettrais presque à égalité avec Flash. C'est vraiment deux séries sur lesquelles j'y allais. Je savais pas trop où je m'aventurais. Est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas bien. Et au final, elles ont toutes les deux su très bien démarrer et se bonifier avec le temps.
Bah écoute, je lui redonnerai sa chance. Moment. Parce que vraiment le peu que j'ai vu m'a profondément ennuyé, je me suis endormi et pourtant c'est assez rare que je m'endorme devant une série, mais je lui redonnerai sa chance. Ouais.
Et moi j'ai fait comme toi Nono, je me suis pas endormi devant mais j'ai regardé que le premier jusqu'à présent et j'ai pas l'envie si intense que ça d'aller voir la suite, enfin si j'ai envie d'aller voir mais j'ai tellement d'autres choses plus intéressantes à voir qui me donnent plus envie que bah, voilà, ça sera quand vraiment j'aurai le temps.
Ouais.
Donc bon, ça va pas être tout de suite.
Pensais ça au début et finalement, en me forçant à la regarder, en entendant toutes les bonnes critiques, j'ai changé d'avis. Donc je vous encourage vraiment à faire de même.
Tu vois, le truc, c'est que aujourd'hui, avec le nombre de séries que je suis et qu'on suit tous, hein, oui, de toute façon, j'ai pas envie de me forcer.
Ouais, c'est ça. Je pense que Constantine, je la materai cet été. Tu vois, quand c'est la grosse pause, il y a plus beaucoup de séries qu'on suit. Bah, je rattraperai mon retard cet été, mais c'est vrai que là, cette année, avec tout ce que je regarde déjà, bah, Constantine, il va passer à la trappe, quoi.
Ouais.
Il en reste une dernière dont on n'a pas parlé, puisqu'on a déjà un petit peu adressé Walking Dead, je pense qu'il y aura pas besoin d'y revenir.
Voilà.
C'est Agents of S.H.I.E.L.D., série de la ABC, pardon. J'allais dire CBS, non, CBS, ce sera pour l'année prochaine avec Supergirl. oui, comme ça, chaque petit network, enfin, chaque network aura sa propre série comics.
Voilà.
Donc Agents of S.H.I.E.L.D. qui se vautre dans les audiences.
Ouais, alors que quel dommage, parce que cette saison 2 et surtout le final de la saison 2, il envoie du lourd et il promet une fin de saison, une deuxième partie de saison vraiment très intéressante. Et il y a de plus en plus de liens avec l'univers Marvel. Là, clairement, on nous apporte sur un plateau d'argent là. On va dire un des prochains films qui est prévu pour 2016, 2017, je sais plus.
2018, je crois, 2018. Si je dis pas de bêtises.
Mais voilà, c'est... Agents of S.H.I.E.L.D., il a pêché jusqu'à la sortie de Cap 2 l'année dernière. La fin de la saison 1 était vraiment très bonne. De toute façon, ça s'est senti sur les audiences, ça a bien remonté sur la fin de la saison 1. Et là, la saison 2, elle a mis un peu de temps à démarrer, mais... La fin est vraiment très très intéressante et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec la sortie d'Avengers 2 l'année prochaine, pour voir les liens qu'ils vont pouvoir faire, parce que vraiment elle gagne, elle mériterait d'avoir plus d'audience. Alors je pense qu'elle a pêché par son passé et que les gens se sont lassés très vite de cette série, mais elle rattrape vraiment très très bien, je trouve.
Le problème d'Agent of S.H.I.E.L.D., c'est qu'on nous a promis une série un peu spin-off à Avengers pour finalement avoir une série avec le type qui meurt dans Avengers, des caméos vite fait de Samuel Jackson et des inconnus qui sont même pas dans le comics. C'était peut-être un peu ça le problème au début. Et finalement, oui, elle a créé sa propre mythologie en puisant du mieux qu'elle pouvait dans ce qu'elle peut prendre des comics pour l'adapter, ce qui en général se résume à des personnages très secondaire, voire tertiaire. Et là, si on suit les rumeurs, il y a peut-être même déjà des liens avec Avengers 2 qui viennent de se tisser.
Ouais.
Et avec le comics aussi.
Oui, avec le comics aussi, oui. Car les personnages d'Agent of S.H.I.E.L.D. qui n'existent pas dans les comics pourraient très bien, voire même pour certains, c'est même sûr, vont apparaître dans la série qui va bientôt débuter en continuité
janvier.
Dans l'univers Marvel, oui, en janvier, par Mark Waid, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Pas rien.
Qui s'appellera S.H.I.E.L.D.
Voilà.
De même que l'origine de certains persos qui vient d'être modifié il y a deux semaines.
Ouais. Ah, ça par contre, ça fait un peu plus chier si vous me permettez de la vulgarité.
Non.
D'accord, désolé, je retire.
On coupera au montage.
Non, pas le temps. Oui, parce qu'on enregistre les émissions en avance, mais on est quand même un petit peu en flux tendu, donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les séries comics de l'année. On reviendra vers la fin de l'émission sur les séries qui vont débarquer, notamment en comics, mais pour les autres aussi. Il y aura à dire. On va maintenant parler des séries autres que l'on suit, autres que le comics évidemment, parce qu'il n'y a pas que ça, et heureusement d'ailleurs, des séries que l'on suit depuis quelques années, des séries qui reviennent pour une énième saison. On va démarrer par des petites nouvelles quand même qui reviennent pour leur deuxième saison. Nono, The Hundred.
Ouais, The Hundred, très bonne surprise de l'année dernière, j'en avais parlé dans un weekly news, dans un WhatsApp, si je me souviens bien. Et série dont la deuxième saison a réussi à faire un virage très inattendu et très intéressant. Donc The Hundred, pour résumer, en fait, ça se passe dans un futur, ça se passe une centaine d'années dans le futur, je crois, et la Terre a été ravagée par l'arme atomique, et du coup, toutes les stations orbitales se sont réunies pour en créer qu'une seule. Et donc les gens vivent dans l'espace, sauf que leurs réserves d'oxygène et leurs réserves de nourriture arrivent à terme, et donc les dirigeants décident d'envoyer 100 adolescents qui étaient en prison, parce que tout crime est puni par la prison sur ce consortium de navettes spatiales, et donc ils sont renvoyés sur Terre pour voir si c'est redevenu vivable. Et donc ces 100 ados arrivent sur Terre. Et ils vont devoir... la Terre, forcément, est vivable, sinon ça ne durerait qu'un seul épisode. Et
même pas un demi, ils arrivent.
Imagine, ils meurent. Ah, merde. Et ils vont devoir apprendre à vivre sur Terre, apprendre à vivre ensemble, et surtout apprendre à vivre avec les Terriens qui sont encore vivants. La fin de la saison 1 se termine par... les gens encore dans l'espace, ils n'ont plus d'autre choix que d'aller sur Terre, parce qu'ils ont perdu tout contact avec les ados sur Terre, donc ils ne savent pas du tout s'ils sont vivants ou pas, et donc ils décident quand même coûte que coûte d'aller sur Terre, parce que de toute façon il n'y a plus d'oxygène, et la saison se termine comme ça, avec la navette qui atterrit sur Terre. Et donc là, dans la deuxième saison, les ados vont devoir réapprendre à vivre avec leurs parents, et toujours face aux Terriens, qui sont un peu des autochtones hyper violents, et on se rend compte qu'en fait, il y a encore une population sur Terre, vivante, qui est l'héritier, on va dire, de notre population, donc avec les mêmes règles, les mêmes normes, etc. Sauf qu'il y a plein de mystères et tout. Donc c'est une série CW, c'est une série adolescente, hein, clairement, mais ça pose d'autres problèmes, etc. Et c'est vraiment, vraiment intéressant.
Je sais pas, la façon dont tu le décris, il y a un petit côté Battlestar, il y a un petit côté Fallout, le jeu vidéo.
Oui, tout à fait. Fallout, tu peux, Battlestar, je connais pas, j'ai jamais regardé, donc je peux pas dire.
Hérétique.
Ouais, je sais. Mais Fallout, ouais, effectivement, il y a cette petite ambiance Fallout avec les radiations, etc.
Ouais, elle est sortie de l'abri, va voir si c'est vivable, etc. Voilà. Sauf que là, l'abri, il est dans l'espace, quoi.
Ouais, c'est ça. Et vraiment très très intéressant comme série. Et je sais que je suis pas le seul. Ino, notre ancien comparse de Comic City, aime beaucoup cette série aussi. Vraiment, une très très bonne surprise de l'an dernier.
Y a-t-il un Jardin d'Éden en kit ?
Non.
Ce sera peut-être la réponse à la seconde saison ?
Peut-être.
Mm-hmm. Et c'était une série estampillée Comic City, car c'était aller dans l'espace et mourir.
Là, apparemment, ils ont esquivé la mort. Hein.
Ouais. Mais...
une autre série de l'année, une série qui revient pour une nouvelle saison... Et même surtout sa dernière, c'est Sons of Anarchy, Marty.
Oui, Sons of Anarchy qui revient pour une septième et dernière saison. Et honnêtement, j'ai envie de dire, il était un peu temps que ça se termine, car au final, Sons of Anarchy, c'est un peu toujours la même chose, et je trouve qu'ils sont allés trop loin.
Des mecs à moto.
Oui, des mecs à moto qui se trahissent les uns les autres. C'est honnêtement, là, ça devient limite incompréhensible, je trouve. J'ai pas encore totalement achevé la saison 7. Et tout le monde se trahit tellement et fait des alliances tellement entre chaque clan qu'on n'y comprend plus rien. Honnêtement, ça va trop loin. On arrive vraiment... pour moi, c'était vraiment le point de non-retour. Et puis bon, finalement, les personnages deviennent tellement... même plus ambigus. Ce sont vraiment tous des ordures qu'on a du mal à s'attacher avec eux. L'attachement qu'on avait pour des personnages comme Jackson n'est plus là, je trouve. Mais en tout cas, la série reste fidèle à elle-même. Il y a toujours des flingues, des explosions... des meurtres, des retournements de situation et des cliffhangers de malades. Donc bon, si vous avez aimé jusque-là, vous aimerez quand même et vous aurez votre petite larme à l'œil lorsque la saison s'arrêtera et que vous direz au revoir pour toujours à vos personnages préférés.
C'est une série qui m'a jamais intéressé, ça. Je dois pas être assez biker dans l'âme, en fait.
Ah ben, ouais, enfin, moi je suis pas non plus un méga biker, hein, loin de là, mais franchement, cette série est vraiment très bonne.
Ça passait sur M6 en deuxième ou troisième partie de soirée pendant un moment, non?
Ouais.
Et j'avais checké, j'avais regardé comme ça, et je sais pas, vraiment.
Je sais pas si tu as regardé la série Shield.
Oui, j'ai regardé les
deux. Enfin, The Shield, ouais. Avec Michael Chiklis.
Oui, j'ai regardé une ou deux saisons, ouais.
Ah, si tu n'as pas accroché, il y a des chances que tu n'accroches pas à Sons of Anarchy.
Ouais.
Mais si tu as aimé cette ambiance, voilà, de un petit peu pourrie, etc. C'est vraiment The Shield mais version motard, quoi.
D'accord.
Et le problème, c'est que limite, il faut parfois aller sur Internet vraiment voir quelques petits points de culture parce qu'il y a des moments où faut s'accrocher quand même. C'est un peu pour qui ne connaît pas bien la justice américaine, il y a quelques points qui me paraissaient parfois obscurs.
Parce qu'il faut connaître les motos.
Justement, tu me fais une très bonne transition en parlant de justice américaine avec une autre série qui revient cette année, série que je suis avec grande avidité. Il s'agit de The Good Wife, série de la CBS avec la grande Juliana Margulies qui joue dans cette série. Et voilà, sixième saison, toujours aussi bonne, avec un espèce de moyen de boucler la boucle dans cette saison. Ce n'est pas la dernière, en tout cas pas à ma connaissance. Mais après avoir été la femme du sénateur qui l'a trompé, avoir été la cible des médias, un petit peu comme Hillary Clinton l'a été avec face à Bill quand il a fait le joujou avec son cigare, elle est remontée, elle a été dans un cabinet d'avocat, elle a réussi à devenir une partenaire, elle a monté son propre cabinet d'avocat, et durant cette sixième saison, eh bien, elle va partir à la conquête du poste de state attorney. Elle se lance donc dans l'élection, un petit peu forcée et contrainte, mais voilà, ça promet de belles choses, et cette sixième saison est très très bonne, et il y a justement tout ce retournement de situation qui est très bien vu, avec elle au début de la série, qui était photographiée dans les médias, un petit peu à l'arrière de son mari qui l'avait trompée, et puis maintenant... elle qui est sur le devant de la scène et son mari qui est un petit peu en arrière. Donc non, franchement, toujours aussi bonne cette série. Une série, bien sûr, sur le monde des avocats, évidemment.
Et est-ce qu'on voit le docteur Ross, Doug Ross, ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. Enfin, il est peut-être passé dans un épisode, mais je me rappelle plus l'avoir vu, honnêtement. J'ai pas vu tant de gens passer d'urgence, en tout cas. Mais vraiment très très bonne série, et je vous encourage vivement à la regarder si vous ne la connaissez pas. À l'époque où ça avait démarré, j'étais moyen chaud sur le thème, et c'est vraiment très très bien. On s'éloigne très vite de la femme trompée qui essaye de se reconstruire pour aller vers des histoires beaucoup plus intéressantes, et voir à quel point elle était rien au départ et qu'aujourd'hui c'est elle qui est plus le requin qu'autre chose. Donc vraiment très bonne série. Que j'adore toujours autant. On continue avec American Horror Story, nos quatrième saison.
Ouais, quatrième saison. Après une troisième saison un peu en dessous des deux premières, la quatrième revient sur un thème que j'adore détester. C'est le thème du cirque et des monstres. Donc en fait, encore une fois, pour résumer la série, chaque saison d'American Story est indépendante l'une de l'autre, parce qu'elle raconte une histoire. Donc ça reprend grosso modo le même cast. Mais dans des rôles différents. Donc quand on n'est pas au courant de ça et qu'on switch d'une saison à l'autre, on est un peu perplexe parce qu'on se dit bah merde, c'est les mêmes acteurs, mais ça se passe pas à la même époque. Et en fait, apparemment, il n'y a pas de lien, sauf que récemment les producteurs, qui sont quand même, il faut le rappeler, les créateurs de Glee et de Nip Tuck, donc comme quoi ils aiment faire des grands écarts. Ils ont dit que apparemment il y avait quand même un lien entre les différentes saisons. Donc j'attends de voir si ça va se confirmer. Mais voilà, la première saison, ça parlait d'une maison hantée type Amityville. La deuxième saison, c'était une saison sur un hôpital psychiatrique désaffecté qui raconte un peu ce qui s'est passé 50 ans auparavant. La troisième saison, c'était sur des sorcières adolescentes. Donc à la Nouvelle-Orléans, un peu un peu en dessous, comme je l'ai dit. Et là, la quatrième saison, ça se passe dans un cirque dans les années 50-60, dans l'Amérique profonde. Un cirque de monstres, ce qu'on appelait à l'époque les freak shows. Et elle est très très bonne comme saison, elle est bien gore comme il faut, avec de l'hémoglobine à foison, avec des intrigues, etc. Et c'est vraiment un régal, cette série. C'est une des séries sur lesquelles je suis à jour, parce que voilà, elle est tellement bien que dès que ça sort, je regarde. Et je regarde seul, parce que madame n'aime pas les trucs qui font peur, donc voilà.
Autre série, là, qui va vous faire parler tous les deux, il s'agit de la 8e saison de Doctor Who.
Ah, Doctor Who.
Comme quoi, on ne regarde pas que les séries américaines.
Non, on regarde aussi les séries anglaises.
Après, on parlera de Village aussi, le Village français, là.
Non,
je plaisante.
Non, bah, Doctor Who, vas-y, Marty. Vas-y, Marty, je viens d'en parler. Je viens de parler d'une série, donc vas-y.
Ah, Doctor Who, cette 8e saison, qui est donc la première avec Peter Capaldi dans le rôle du 12e Docteur, enfin 12e ou 13e, suivant comment vous comptez, vu que Doctor Who, c'est devenu encore plus compliqué que ça ne l'était déjà depuis l'an dernier.
C'est encore plus compliqué qu'un décès post-New 52.
Oh, j'irai pas jusque-là, mais presque. C'est vrai qu'on va se demander qui s'est inspiré de quoi, tellement ils adorent être connés dans les deux cas.
Ouais.
Enfin, toujours est-il que cette saison m'a beaucoup plu. On l'attendait au tournant, Capaldi, qui incarne donc un docteur assez différent des précédents, moins foufou et plus classique, si l'on se réfère au premier docteur, ouais, qui était en général des personnes qui avaient plus de 50, voire 60 ans.
Voilà, pour la première fois dans la nouvelle série, c'est un docteur vieux.
Pour la première fois depuis même la fin des années 70, ouais, début 80.
Ouais. C'est le docteur allait en rajeunissant, et là, pour finir avec un style post-ado avec Matt Smith, on se retrouve avec un docteur qui est vieux, quoi, qui a les cheveux blancs.
Ça aurait pu être drôle, un docteur avec l'âge de Macaulay Culkin dans Home Alone.
Oui.
Ah non, ne leur donne pas des idées, s'il te plaît.
Je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi pour en avoir.
Mais en tout cas, ce docteur, moi, personnellement, j'ai beaucoup accroché. Alors, la série change aussi de style. Je sais pas ce que tu en as pensé, Nono, mais
complètement.
On est beaucoup dans...
Je l'avais expliqué, j'avais fait un premier guide des épisodes de la saison 1, sur Comic City, il y a maintenant un petit bout de temps. Et, à la base, Doctor Who, c'est une série éducative pour les enfants. C'est-à-dire que c'était la série qui passait le dimanche après-midi en Angleterre, à l'époque où il y avait qu'une seule chaîne, qui expliquait un peu l'histoire à travers justement ce docteur qui voyage dans le temps et dans l'espace. Et la série était censée justement présenter aux enfants l'histoire du monde, etc. Là, clairement, la majorité des épisodes, je les montrerai pas à ma fille. Pas avant ses 18 ans.
Parce que maintenant, il affronte des poubelles sur roulettes qui ont des ventouses en guise de laser et qui peuvent dominer l'univers.
Non, mais il y a des épisodes qui font flipper là sur cette saison.
Et surtout la nouvelle saison, oui. Alors j'avais fait une petite review sur le site du premier épisode. Ouais. Je me demandais si on nous promettait de l'épique. Et finalement, à part l'épisode final, on est très loin des épisodes épiques. On est beaucoup dans l'enquête, dans l'horreur,
moi,
dans la construction.
Je dirais même pas l'épisode final. Je dirais l'avant-dernier épisode, parce que l'épisode final m'a énormément déçu quand même.
Ah bah moi j'en ai beaucoup aimé, mais bon, on va pas en débattre.
Oui,
je pense vrai. Malheureusement on pourra pas en débattre.
Mais il faudrait faire un spécial Doctor Who. Ça fait des années qu'on le dit, mais il faudrait un jour.
Oui, il faudrait. Vraiment, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour moi, cette série...
Excusez-moi, vous avez dit quelque chose ?
Non, du tout.
Non, j'ai déconnecté l'espace d'une seconde.
Il sera fait après l'épisode sur les invisibles. En tout cas, pour moi, cette saison de Doctor Who est vraiment une réussite, même si ça manquait peut-être d'un ou deux épisodes très, très épiques.
Ouais, il y en avait qu'un pour moi.
Voilà. Et honnêtement, à part peut-être l'épisode avec Robin des Bois, auquel je trouve quand même des qualités, il n'y a aucun épisode qui ne m'a déçu.
Non, ils m'ont pas déçu, mais effectivement, il manque ce souffle épique qu'on pouvait avoir avec Tennant ou avec Matt Smith.
Oui, mais c'est la faute au scénariste et non pas à l'acteur qui est juste pour moi excellent.
Oui.
Comme Jenna Coleman, qui est toujours aussi bonne.
Ouais,
actrice.
Pour moi, c'est vrai que ce docteur arrive en deuxième position de mes docteurs préférés, sachant que j'ai pas vraiment regardé la série classique. Je me suis plus concentré sur
La nouvelle version.
Oui, voilà, sur la version de 2005. Et voilà, c'est vrai que ce docteur est formidable. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé.
Oui,
ça,
en effet.
Voilà, c'est une saison vraiment qui tu aimes ou tu détestes, quoi.
Mais qui a osé des choses aussi. Oui. Elle a osé un truc qu'on ne spoilera pas ici et qui ouvre, qui confirme quelque chose qui avait été révélé déjà la saison précédente et qui ouvre des portes pour des plans peut-être futurs qui risquent de faire jaser.
Ouais. Mais vraiment une très bonne série avec un énorme background. Donc effectivement, pour apprécier pleinement cette saison, il faut avoir vu les 7 premières. Ça, c'est indéniable. Moi, je sais que je connais des gens qui ont démarré avec la saison 5, notamment Aurélie, ma copine, et également des gens qui nous ont rejoints cette année au LCF, qui ont tous démarré avec les saisons 5. Ils sont devenus accros, ça, y a pas de souci, mais il leur manque quand même beaucoup de background.
Bah, je pense que si t'as pas vu la période Tennant, enfin, c'est con de commencer si t'as pas vu la période Tennant.
Ouais.
Même la période d'avant, celle de Eccleston.
Ah, ça pose les bases.
Oui.
C'est sûr. C'est sûr. Mais
en tout cas, voilà.
Si tu veux vraiment zapper une saison, pour moi, c'est peut-être celle à zapper, quoi.
Ouais. Et encore.
Non.
Et encore.
Ne zappez rien.
Mais oui, il vaut mieux pas zapper. Ce sont des saisons courtes. Je suis en train de finir la 7e pour ma part. Je vais bientôt attaquer le 8e docteur. Le 12e docteur et la 8e saison. Ouais, mais oui, ils font chier aussi, c'est compliqué. Ouais.
Et là, on attend tous avec impatience l'épisode de Noël qui a lieu dans 2 jours, 3 jours.
Oui, dans 2 jours, le 24. On enregistre,
oui. Ouais. Allez, on continue sur une autre série drama. Enfin, drama qui s'approche de la comédie, c'est Castle, qui en est rendu à sa 7e saison. Une série de ABC encore. Je me suis aperçu que je regardais énormément de séries d'ABC, ça m'inquiète.
Mais tu es devenu trop conformiste.
Je suis devenu trop fan de Disney, c'est pas normal.
Toi aussi, tu t'es fait acheter pour $1 milliard.
Oh putain, ça réglerait beaucoup de mes soucis. Non, j'allais dire un truc, mais non, je peux pas.
Toi aussi, tu suces Mickey?
Peut-être. Castle, donc cette série avec Nathan Fillion et Stana Katic. Excellente série. Je sais que Sam, qui adore cette série, est très déçu de cette 7e saison. Et ben moi, pas du tout. Je retrouve le côté complètement foufou du départ, avec des histoires qui ont... qui ont un peu ni queue ni tête. On a des histoires de mondes parallèles. Oui, je vous assure, de mondes parallèles.
Ouais.
Ou des histoires de fantômes, etc. Mais on est dans Castle. Et tout a une explication logique.
Alors moi, c'est clairement la série sur laquelle je n'ai jamais accroché. Mais alors, jamais. J'ai pas jamais réussi à accrocher un épisode. J'ai l'impression que c'est une énième série à la Bones, voilà, des séries de ce style-là.
Bien sûr.
Et... Alors je sais,
mais c'est, il y a tellement plus de, enfin c'est tellement bon, c'est tellement geek, il y a tellement de références, de vannes, il y a tellement plein de trucs dedans que
ça
m'étonne que
regarder.
Tu accroches pas. Ça m'étonne que tu accroches pas, Nono. Parce que Nathan Fillion,
ouais,
c'est vraiment le grand enfant geek par excellence, quoi.
Ouais.
Qui le moindre truc va croire qu'il y a des ninjas, qu'il y a des, enfin c'est complètement foufou et c'est ça qui rend le personnage super attachant.
C'est même une icône geek, on peut le dire.
Oui, c'est une icône geek de toute façon.
Mais vraiment, enfin, très très bonne série. Moi, j'aime beaucoup cette 7e saison et le petit cliffhanger qu'on a pour le break d'hiver me donne envie de voir la suite avec impatience, savoir comment les choses vont pouvoir continuer. Voilà. Oui, alors, je rappelle, hein, le fameux cliffhanger de la saison 6, hein, la voiture qui explose. Enfin, faut pas être trop con. La série s'appelle Castle. Vous croyez vraiment qu'il va mourir dans une explosion de voiture?
Non, il était sous la douche.
Voilà. Enfin, je veux dire. C'est vrai que le cliffhanger était assez con puisque bon bah l'intérêt c'est plutôt comment va-t-il s'en sortir plutôt que est-ce qu'il s'en est sorti. On sait très bien qu'avec la série qui porte son nom, il risque pas grand chose.
Ouais.
On va continuer quand même avec d'autres choses, des comédies, parce qu'il n'y a pas que des drames et des choses qui font pleurer ou qui nous font trembler, il y a aussi des choses qui nous font rire, comme Modern Family, on a sa 6e saison.
Voilà, c'est toujours mon plaisir, cette série. Je trouve que elle continue de s'améliorer d'année en année, et de toute façon, ça, il y a qu'à regarder les audiences qui sont toujours très bonnes, et également les récompenses qu'elle se tape chaque année.
Ouais, c'est peut-être un peu trop abusé sur les récompenses,
oui,
pour Modern Family.
Ouais, mais c'est vraiment une série qui, voilà, à chaque fois que je la regarde, je ris. C'est pas compliqué. Ça et Big Bang Theory, c'est vraiment deux séries qui, à chaque fois que je les regarde, me font rire. Et j'ai souvent l'air con parce que je fais souvent des permanences avec mon boulot dans des écoles. Et quand j'ai personne, bah, je regarde des séries sur mon téléphone. Et si j'ai le malheur de regarder Modern Family, ben je rigole tout seul à mon stand, comme un abruti. Et mais voilà, c'est une série. On va pas raconter l'histoire parce qu'il y a 6 saisons. Même s'il n'y a pas un énorme background, s'il n'y a pas vraiment de fil conducteur précis par saison, c'est la série qui se regarde tout seul et qui malheureusement en France a pêché par une programmation hyper tardive sur M6, il me semble, où ça passait à des heures pas possibles, ou alors en matinée, etc. Mais c'est vraiment une série que je conseille à tout le monde.
Et vraisemblablement une VF bien pourrie
aussi.
Oui,
j'ai eu le malheur de regarder une fois en VF, j'ai vomi.
Mais M6 sont des spécialistes parce que vous regardez des séries comme Scrubs, My Name Is Earl, ouais. Ils sont passés avec des VF pourries à des heures pas possibles, alors que c'était les meilleures séries comiques qu'ils avaient à proposer.
Bizarrement, Scrubs, ouais. Moi je les regardais tout en VF, ouais, moi aussi. Et ça passe très bien.
Et j'ai jamais, oui. C'est comme les Simpsons en fait pour moi, Scrubs. Je regarde en VF, la VO j'accroche pas.
Je suis d'accord avec vous, c'est une des rares séries, je trouve, où la VF est réussie. Mais ça doit dater de, comme elle date du début des années 2000, c'était l'époque où on savait encore à peu près faire des VF, je pense.
Ouais.
J'ai eu le malheur de tomber sur New Girl, par exemple, en VF aussi.
J'en suis à la première saison.
Ça passe pas. J'espère que tu la regardes en VO, Nono, parce
oui,
qu'en VF,
sûr,
c'est juste
sûr.
Insupportable. Quoi. J'ai essayé, hein, c'est pas possible.
Je savais même pas que ça passait en France, New Girl, tu vois.
6 sur M6.
En tout cas, moi, je l'ai vu sur Netflix.
D'accord.
En VF. Et je voulais comparer la VF et la VO. Ah, j'ai pas été déçu. justement, tu parlais de Big Bang Theory. Continuons. 8e saison de cette série. Autre comédie, hein, évidemment, de CBS.
Ouais, j'ai beaucoup de retard sur cette saison. Je crois que j'ai regardé que 2 ou 3 épisodes. Parce que, encore une fois, c'est la série que tu regardes quand t'as rien à regarder et pour te détendre, en fait.
Ouais, tu sais que tu seras pas vraiment, vraiment déçu. Enfin, quoique, cette saison, personnellement, je la trouve beaucoup moins drôle. Je sais pas ce que t'en penses, Marty.
Ah, moi, j'aime beaucoup. Et moi, justement, c'est une série que je regarde chaque semaine dès que je peux, au contraire. C'est dès qu'elle est sortie et que je peux trouver un moment pour la regarder. C'est la série qu'on regarde avec ma copine. C'est un peu un de nos rituels. Et on se marre toujours autant. Alors oui, avec le temps, il n'y a plus la fraîcheur du début. Mais je trouve que de temps en temps, ils arrivent encore à nous sortir des petites pépites. Et mine de rien, pour une série qui a pas mal bouleversé son statu quo, elle s'en sort. Elle s'enlise moins que d'autres séries qui essaient de changer les choses.
Mais pour moi c'est le même principe et c'est le même problème qu'il y a eu How I Met Your Mother, c'est que les gens n'acceptent pas que la série change.
Oui, bah, ils s'en sortent quand même.
Mais les personnages vieillissent, les scénaristes vieillissent, on peut pas faire les mêmes histoires, enfin ça fait 8 ans que ça dure, on peut pas refaire les mêmes gags qu'il y a 8 ans, les personnages ont vieilli en 8 ans, ce serait plus crédible.
Oui, et puis ils sont obligés d'évoluer aussi quoi, je veux dire à un moment...
Peut-être le gros problème pour moi dans Big Bang Theory, c'est qu'il n'y a pas assez d'évolution, justement.
Ça dépend. Pour Sheldon, ils tentent des trucs. Bon, en même temps, ils peuvent que avancer tellement ils partent de loin.
Mais le problème, c'est qu'ils tentent des trucs, mais ils les annulent aussitôt.
Ah,
alors
quand même.
Là, sur les derniers, j'avoue que le dernier épisode, le Noël, il y a quand même une petite évolution légère, mais c'est le problème. Et un des personnages les plus sous-exploités est en Rage, à mon avis.
Oui, mais ça a toujours été.
Et pour Big Bang, une petite pensée à la personne qui faisait la voix de la mère d'Howard en VO, qui est décédée.
On en a parlé dans un Weekly News, je m'en souviens.
Voilà, oui. Et donc, malheureusement, on ne l'entendra plus.
À savoir que la série est déjà renouvelée pour une saison 9,
ouais,
et même une saison 10.
C'est pas étonnant du tout.
Et juste petit truc, malheureusement, ce que je trouve, c'est que que le côté geek est un peu atténué, mais il y a un épisode de cette saison avec une pièce, je n'en dis pas plus, mais où, si vous avez une âme de geek qui adorait les films et tout, vous allez vous régaler.
Oui, bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, tu as raison, le côté geek est pas mal atténué cette saison. Bon, ça reviendra peut-être, hein. Faut pas désespérer. Autre série comique, The Middle.
Ah,
6e saison, tu continues, Marty, toi, de regarder The Middle?
Écoute, justement, j'ai commencé l'an dernier, encore une fois, grâce à ma copine qui regardait cette série. Justement, j'ai commencé avec la saison 5, j'ai vu à la télé quelques épisodes des saisons précédentes, et j'aime vraiment beaucoup. Bon, déjà, on parlait de Scrubs avant, il y a l'acteur qui jouait le concierge dans Scrubs.
Oui,
voilà. Et
qui a un vrai nom.
Oui.
Qui a un vrai nom et qui a un rôle taillé à sa mesure. C'est vraiment, il est excellent. Lui et l'acteur qui joue Brick, ces deux personnages, je les adore vraiment. J'accroche beaucoup. Après, comme j'ai pas encore découvert les anciennes saisons, je commence un peu à l'envers. Peut-être que Je sais pas, Steve, si tu n'aimes plus, ça a perdu de sa fraîcheur, ben, peut-être.
Pour moi, ça a complètement perdu de sa fraîcheur, en effet, même si la série s'est renouvelée sur la saison 5 avec le départ d'Axel pour l'université, etc. Moi, ça m'a fait chier. En fait, comme Modern Family, c'est une série, ça a commencé la même année, ces deux séries-là. Et je les ai suivies depuis le premier jour, en VO, semaine par semaine. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis ces séries-là. Et The Middle, je dois avouer que la dernière saison, j'en suis à l'épisode 7, 8 peut-être.
Parce que... Là, ça s'est arrêté, je crois.
Ah non, de la saison 5.
D'accord.
De la saison 5. C'est-à-dire que j'ai plus la même envie d'aller voir The Middle parce que j'ai l'impression que ça n'évolue pas des masses. Et surtout, le personnage qui n'évolue pas et qui mériterait bien d'évoluer, c'est Frankie, la mère. Et c'est elle qui est toujours le centre des histoires, c'est elle qui est le centre de tout, et alors qu'elle n'a aucune évolution. Et ça me gêne. Les personnages autour d'elle évoluent, mais elle n'évolue pas. Et un changement de job n'est pas une évolution. Non, les scénaristes arrêtaient. Ça c'est la technique pour te faire croire qu'on évolue, qu'on fait évoluer un personnage, on le fait changer de job. Mais non quoi.
Bon, on en reparlera si tu veux le jour où j'aurai tout rattrapé, ou peut-être que je serai aussi blasé que toi, on verra.
Moi j'ai vu les.
Mais c'est pas que la série est mauvaise, hein.
J'ai vu les deux premières saisons sur le câble. Ça passait sur Sister, je crois, en français.
Oh mon dieu, cette VF qui est, je crois, peut-être une des pires VF que j'ai pu voir.
Bah, c'est la seule que j'ai vue parce que il y avait pas le multilingue sur cette chaîne là. Donc j'ai pu regarder qu'en VF et j'ai bien accroché, j'ai trouvé ça très sympa.
Quoique, la pire VF étant, j'hésite entre How I Met Your Mother et The Big Bang Theory.
Ouais, c'est My Name Is Earl, la pire des VF qui existe.
Ah, je sais pas.
Un jour on fera notre top 10 des pires VF qui nous ont fait saigner les yeux. Et les oreilles.
Oui, surtout les oreilles je pense, parce que les yeux... Enfin, moi je dis ça, hein, je dis rien. excuse-moi, non, on t'a coupé.
Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai dû voir les deux premières saisons qui passaient sur le câble, sur la TNT, et j'ai trouvé ça très sympa, mais ça m'a pas donné envie de suivre assidûment, tu vois.
Je peux comprendre. C'est un peu une série qui, tu peux limite prendre un petit épisode par-ci, un petit
épisode
par-là.
Oui, voilà, c'est ça.
Bah, c'est un peu Malcolm,
un peu comme Modern Family.
Enfin, je trouve que c'est un côté Malcolm, mais sans le côté foufou déjanté qu'il avait dans Malcolm.
Ouais.
C'est totalement le successeur à Malcolm.
Ah, mais oui, complètement.
Malcolm in The Middle, voilà.
Complètement. On continue avec les séries comiques pour les dernières séries qui revenaient. On va passer aux nouvelles séries juste après. Je crois que vous en avez fait le tour des séries que vous continuez de suivre, donc il ne reste plus que moi. Brooklyn Nine-Nine, une des petites pépites de l'année dernière avec Andy Samberg. Et entre autres, hein, qui faisait partie du Saturday Night Live, excellente série de flics complètement déjantée. Imaginez les pires flics possibles. Voilà, c'est vraiment ça. Qui arrive à résoudre quand même des crimes, hein, vraiment, mais ils sont juste complètement tarés. Et surtout le personnage principal, Andy Samberg, même si les autres dans son équipe sont bien tarés aussi, entre le capitaine totalement taciturne qui, quand il est complètement à fond, est aussi expressif que quand il est triste. Et sa partenaire qui est une espèce de petite madame je sais tout qui veut toujours être la première partout, mais voilà, qui que ça empêche d'avancer aussi. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette série Brooklyn Nine-Nine, allez-y, vraiment c'est très 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 bon, à mourir de rire.
J'ai vu 2-3 épisodes l'an dernier et en fait c'est un peu Police Academy mais en drôle.
Police Academy était très drôle pour l'époque.
Était drôle,
oui,
à son époque, oui.
Oui, j'aime bien les premiers Police Academy. Non, mais j'ai vu 2-3 épisodes à la télé, et puis honnêtement, oui, si j'avais eu du temps, j'aurais regardé vraiment, ça a l'air vraiment cool.
Bah, si vous êtes abonné à Netflix, hein, Brooklyn Nine-Nine est maintenant disponible sur Netflix, donc faites-vous plaisir, vraiment. Et en VO. Tentez pas la VF. Je sais pas ce qu'il y a vaut, mais tentez pas la VF. Enfin, autre série que je regarde assidûment, petit guilty pleasure, c'est Two Broke Girls. Série avec Kat Dennings et Beth Baer qui sont deux filles qui sont vraiment sans le sou, qui ont monté leur petite affaire de fabrication de cupcakes et qui travaillent aussi comme serveuses avec des personnages tous aussi barrés les uns que les autres. C'est complètement déjanté, c'est complètement irrévérencieux, ça passe aussi sur CBS, parce que le nombre de vannes salaces qu'il peut y avoir à la minute dans cette série, je crois qu'elle doit faire péter le compteur de toutes les autres séries possibles. Il n'y a pas une vanne qui n'a pas un double sens. C'est juste complètement taré. Mais c'est ça qui la rend complètement drôle comme série. Donc pareil, voilà, bonne petite saison pour cette saison 4. Encore un petit changement de statu quo avec Max qui n'est plus en couple. Mais voilà, qui la série repart bien, c'est pareil, c'est un peu le genre de série qu'on peut... On peut zapper un épisode ou deux, il va pas y avoir grand changement, quoi. Mais ça reste une série sympathique, une bonne petite comédie, et les petits épisodes de 20 minutes qui font plaisir à regarder, qui prennent pas trop longtemps et qui nous font bien marrer. Voilà pour les retours des séries que l'on suivait. Il y a d'autres séries où on est un petit peu en retard, ou qui n'a... voilà, on n'avait pas grand chose à dire sur cette nouvelle saison. On va passer aux nouvelles séries. Et là, malheureusement, il y a quasiment que moi qui vais parler. Hein,
bah ouais, parce que, quasiment. Ouais, c'est le syndrome du je regarde beaucoup et que du coup, bah j'ai pas forcément le temps ni l'envie de regarder, de me lancer dans des nouvelles séries. Et je pense que pour Marty, ça doit être un peu pareil.
Oui, et puis les nouvelles séries, on en a parlé. On va regarder en priorité les séries comics vu qu'on adore ça. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour ma part, et faute de temps, je n'ai pas regardé beaucoup de nouvelles autres séries, malheureusement.
Alors déjà, petit constat pour cette année, beaucoup de séries sur les communautés. On a Blackish, qui est une série de ABC avec Anthony Anderson,
qu'on avait pu voir,
et Laurence Fishburne aussi, voilà. Honnêtement, moi j'ai regardé le premier, j'ai pas accroché. C'est pas pour moi. Mais vraiment, la famille de Black ils sont Black, mais le père trouve qu'il se blanchise. Je vais essayer de traduire ça comme je peux. Voilà, qu'ils n'ont plus vraiment leurs racines Black et que voilà, ils sont devenus des enfants privilégiés qui agissent comme des petits blancs. Et donc, il veut essayer de remettre sa famille dans le droit chemin en essayant de respecter un petit peu les coutumes un peu plus Black, quoi. Franchement, ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas accroché, donc j'ai arrêté tout de suite dès le pilote, quoi.
Le peu que j'en ai vu m'a pas transcendé non plus. J'avais regardé ça. Ça avait commencé un peu avant que toutes les autres séries commencent. Du coup, j'en avais regardé 2-3 histoire de voir ce que ça donnait. Et bon, c'était pas mauvais. Notamment Laurence Fishburne, je l'ai bien aimé dans le rôle du père un peu grincheux. Enfin, du grand-père, du coup. Mais c'est vrai que bon, ça m'a pas donné envie. Une fois que toutes les séries et sitcoms ont recommencé, j'ai pas eu envie de continuer.
Autre série à type communautaire, Christella, qui passe sur ABC aussi. Là, c'est la famille latino-américaine. Donc, comme je dis, beaucoup de communautés. Dans cette série, le personnage principal vit chez sa sœur, qui héberge aussi la mère, avec le mari de la sœur, évidemment. Et elle va rentrer dans un cabinet d'avocat. Enfin, elle suit des études de droit. Elle va faire un stage en interne dans un cabinet d'avocat. Mais c'est une série comique, hein, donc c'est complètement déjanté. Plutôt sympathique. Ça m'a plutôt accroché. J'ai vu les 2-3 premiers et c'est une série que je vais continuer parce que ça me fait marrer. Voilà. Autre série que je n'ai pas commencé, mais qui est une série communautaire aussi, on a The McCarthy's qui est sur une famille irlandaise.
Ouh, ah, des alcooliques.
Est-ce qu'il passe du Dropkick Murphys dans cette série?
Alors, je ne sais pas, comme je dis, je ne l'ai pas regardé, mais c'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est les séries communautaires, c'est vraiment le gros truc de l'année, quoi. C'est une série de CBS. En fait, le principe, c'est que cette famille catholique irlandaise font tous du basket de génération en génération, et le personnage principal, lui, ne veut pas être basketteur, et en plus, il est gay. Donc, comme ça... Ça n'arrange rien.
Il manquerait plus qu'ils ne boivent pas de bière et puis ça serait pousser le bouchon trop loin.
Donc voilà, encore une série communautaire. Et puis il y a une série communautaire qui n'a pas encore débarqué mais qui va débarquer là après la reprise qui arrivera en février. Il s'agit de Fresh Off the Boat qui est sur une série d'immigrants chinois.
Oh putain.
Et qui arrive aux États-Unis dans les années 90.
Oui, putain, mais tout ça, ça me donne absolument pas envie de regarder, quoi.
Ah, le côté années 90, ça, peut-être que ça pourrait m'intéresser, mais bon, il y a tellement de choses à regarder.
Bah, ça a plutôt pas mal marché avec The Goldbergs, hein, qui est la série qui se passe dans les années 80, qui est très sympathique, hein, que je ne suis pas à jour sur cette série, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais voilà, série très sympathique, très bonne série comique. Vraiment, il y a vraiment le côté communautaire, hein, sur cette année, les communautés, comment elles vivent, je sais pas. C'est dans l'air du temps.
Oui, c'est un peu, les sujets sociétaux actuels tournent beaucoup autour de ça aussi.
Ouais.
Passons aux autres séries hein, de cette année. Alors des séries qui m'ont plutôt plu. Une qui m'a déçu surtout par son annulation, c'est Bad Judge avec Kate Walsh, celle qui jouait dans Private Practice et Grey's Anatomy. la magnifique Kate Walsh d'ailleurs, devrais-je dire, parce que waouh, voilà, qui jouait un. Si vous avez vu le film et l'adaptation série télévisée qui n'a pas marché, Bad Teacher.
Ah, je savais même pas qu'il y avait une adaptation série télévisée. Ah,
ils ont pareil. Ça, on reviendra aussi sur les adaptations de films en série, pas forcément toujours très heureux. Eh bien, Bad Judge, c'était pareil. Voilà, une juge, mais qui passe son temps à se torcher la gueule, à arriver en mini-jupe avec des Santiago, enfin complètement. Enfin, quand tu la vois, tu dirais pas une juge, quoi. C'était complètement loufoque, mais ça n'a pas trouvé son public et ça a été annulé très rapidement. C'est bien dommage parce que ça me faisait plutôt marrer. C'était vraiment la série sans prise de tête, quoi. Autre série, alors là j'ai regardé le premier vraiment pour voir ce que ça donnait. NCIS New Orleans.
Oula.
Nouvelle franchise de NCIS à la Nouvelle-Orléans, avec surtout en chef d'équipe Scott Bakula.
Scott Bakula de Code Quantum.
Eh ouais. Eh ouais. Ça c'est classe. Et puis on a en médecin légiste CCH Pounder qu'on avait pu voir notamment dans The Shield.
Ouais.
Très bonne actrice. C'est du NCIS quoi. C'est plutôt sympa. Il y a le côté Nouvelle-Orléans, mais c'est le genre de série. Enfin, en tout cas pour ma part que je ne regarde pas assidûment. Voilà, j'en vois un épisode comme si, un épisode par là, et puis voilà, ça s'arrête là quoi. C'est pas la série que je vais suivre avec grande attention. Les audiences ont plutôt été bonnes hein, pour un premier épisode. Plus de 17 millions. C'est du CBS et du NCIS, ce sont des valeurs sûres. Voilà. Personne n'avait testé hein, cette année cette nouvelle série.
Non. Moi, je regarde aucune des séries CSI, NCIS, tout ça, ça m'intéresse vraiment pas, donc je risquais pas d'essayer.
Non, je regarde même pas quand ça passe sur TF1, tu vois. D'ailleurs, ça m'intéresse tellement pas que je regarde même pas quand ça passe et qu'il y a rien d'autre à la télé.
Alors, une autre série qui m'a particulièrement plu, alors là, je suis en retard, hein, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu que 3 pour le moment, mais en tout cas, c'est une série que je vais continuer, ça s'appelle Forever. Alors, Nono, tu vas peut-être pas aimer le concept, hein, puisque c'est encore... une série d'enquête avec un mec qui participe à l'enquête alors que c'est pas un flic.
Ouais.
Donc voilà. Si vous aimez Highlander, si vous aimez Sherlock, regardez Forever, ça va vous plaire. C'est l'histoire du docteur Henry Morgan qui a juste un petit problème, il peut pas mourir. Alors que lui, il aimerait bien mourir. Il aimerait bien, il en a un peu ras-le-bol, ça fait 200 ans qu'il vit, et à chaque fois qu'il crève, quelle que soit la situation plus ou moins horrible, le mec arrive dans la flotte à poil. Donc déjà, c'est un peu chiant.
Un peu, ouais, je comprends.
Et du coup, il a 200 ans, il a appris beaucoup de choses, il est médecin légiste, et il va travailler avec une flic sur des cas un peu bizarres. Et bien sûr, vous vous imaginez bien que les choses ne vont pas s'arrêter là. Il y a bien sûr un fil rouge avec quelqu'un qui le poursuit et qui connaît son secret. On retrouve donc Johan Gruffudd qui joue le rôle du docteur Henry Morgan. Et on a aussi Judd Hirsch, pour ceux qui se rappellent de la série Numbers, qui jouait le papa dans la série Numbers, qui est en fait le fils adoptif du docteur Henry Morgan, mais qui est plus vieux que lui, évidemment, puisqu'il l'a adopté dans les années 40, enfin à la fin de la guerre. Alors que lui ne vieillit pas, il est mortel, il vieillit pas. Donc finalement, c'est lui son père, mais le fils joue plus le rôle du père. Enfin, la série, je l'ai trouvée très bonne. Il y a un gros côté Sherlock dans la façon dont il réfléchit. Le mec est très intuitif, il repère beaucoup de choses parce qu'il a quand même 200 ans d'expérience de vie. Et puis, il y a un côté Highlander parce qu'on voit des flashbacks de sa vie. Enfin, ça m'a vraiment fait penser à Highlander, quoi.
D'accord.
Et j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Le genre de série qu'on regarde comme ça, qui nous fait plaisir. Et c'est encore une série d'ABC, j'ai honte, mais.
Décidément.
T'as des actions chez eux, c'est pas possible.
Non, mais je sais pas, cette année, il y a presque que eux qui m'ont proposé des projets qui m'ont plu. Je termine très rapidement avec deux autres séries. Madame Secrétaire, une série politique avec la ravissante Téa Leoni, qui va devenir, justement, la secrétaire d'État américain. Alors que l'ancien est mort mystérieusement dans un accident d'avion. Donc voilà, pour ceux qui aiment les séries politiques, vraiment. Sympathique, sans plus, quoi. C'est un petit peu surfer sur la veine de The Good Wife, dans une autre branche. C'est toujours chez CBS, hein, comme The Good Wife. C'est sympa, j'ai vu les deux premiers, je vais continuer, mais j'ai pas été autant accroché que The Good Wife, en revanche. Et puis enfin, Scorpion, autre série de CBS.
C'est sur un parfum.
Non, c'est sur une équipe d'inadaptés sociaux, pardon, des mecs qui ont tous des QI ou des grosses stars, enfin, En général, ils sont plutôt bons. Le personnage principal a un QI de 197, qui est le quatrième QI le plus élevé du monde. C'est un gros hacker, etc. Et il a une petite équipe avec lui, un psychologue, une spécialiste. Alors, un peu cliché, hein, la meuf, la chinoise qui est toujours en colère. Tiens, ça rappelle pas quelque chose de Agents of S.H.I.E.L.D., ça?
Ouais.
Le personnage de la chinoise en colère qui, comme par hasard, est celle qui tape. Hein. Voilà. Forcément, la plus vindicative, celle qui utilise ses poings et ses pieds plutôt qu'autre chose. Voilà. Et puis le psychologue qui est joué par, alors pour ceux qui s'en rappellent d'American Pie, Eddie K. Thomas, celui qui faisait Trace de merde.
Oula.
Enfin, pose caca aussi. Ouais. Ça dépend de la version. Et puis un mec qui est très très bon en maths, mais voilà, qui a énormément de phobies, qui est conspirationniste, etc. Et donc toute cette petite équipe va être recrutée par un agent de la CIA. Qui est joué par Robert Patrick.
Robert Patrick de Terminator?
Oui, oui.
Oh, putain.
Robert Patrick, plus il vieillit, plus il ressemble à rien. Mais bon. bientôt, il va être T-1000, quoi. Il va être liquide, le mec, quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire. Bientôt, il sera tout flasque.
Ah, c'est Terminator, et c'est aussi la fin de X-Files, il me semble, Robert Patrick.
Eh oui. Il jouait, il avait l'agent Doggett.
Ouais.
Un bon personnage, d'ailleurs.
Oui. Enfin bon, bonne petite série d'action, espionnage, voilà, pareil, ça casse pas des briques, mais ça se regarde. Franchement, si on a envie d'une bonne série d'action, ça fonctionne plutôt bien. Tu avais d'autres séries, toi, Marty, alors une série troll et une série qui est déjà finie. Hein.
Ben, je commence par quoi, la bonne série ou la mauvaise?
C'est toi qui choisis.
Bon, allez, on va commencer tout de suite par la mauvaise. On parlait d'adaptation de film avant. Et vous vous rappelez du film Légion, sorti il y a, en quoi, c'était en 2010, je crois, les anges qui venaient sur Terre pour détruire les hommes car Dieu les avait abandonnés. Ce film qui fut, oui, avec Dennis Quaid, je crois, dedans, si je dis pas de bêtises. Un film qui, même moi qui aime les nanars, j'ai jamais pris le temps de le regarder tellement ça avait l'air nul. Eh bien, sur Sci-Fi, ils ont eu la bonne idée d'adapter ça en série, ce qui donne Dominion, une série qui se passe 25 ans plus tard, avec l'enfant qui naît durant le film et qui doit être le sauveur, qui a grandi, et qui donc doit faire face à sa destinée et combattre les terribles anges, avec comme seul allié l'ange Gabriel, qui est le seul à croire encore aux humains. Et finalement, j'ai regardé que le début, parce que après, il y a les bonnes séries qui ont commencé, j'ai arrêté de combler mon temps avec ce truc. Finalement, je fais le troll, mais franchement, ça se laissait regarder. C'était pas aussi terrible que ça en avait l'air, mais ça cassait pas trois pattes à un canard non plus. Ou pour le coup, ça cassait pas ses ailes à un ange, mais bon, ça faisait le taf. On avait, pour le côté un peu geek, Anthony Stewarted, rappelez-vous, Giles dans Buffy, qui a joué ensuite l'austère Uther Pendragon dans Merlin. Et ben ici, il joue l'austère chef politique Trouduc / corrompu / très avide politicien de la ville. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Bon, voilà. Et donc, à côté de ça, il y a eu une perle qui est sortie cet été, en même temps, The Leftover. Magnifique série.
C'est marrant parce que tu fais et après tu parles de perle. Le lien est bizarre.
Ben, je passe de paix à perle. En même temps, avec Dominion, à moins de parler de merde son nom, je pouvais que faire mieux en passant sur une autre série ensuite. N'importe quelle série passerait pour une perle à côté. Et donc The Leftovers, dont Bruno vous a déjà fait l'éloge dans les précédents podcasts, qui là n'est pas adapté d'un film, mais d'un livre. Les Disparus de Mapleton en français, je n'ai plus le nom VO en tête. Et c'est une superbe série. Alors forcément, juste pour situer, c'est une série...
Le titre original, c'est The Leftovers.
Voilà, oui. Le livre aussi, The Leftovers. Voilà, donc, les Leftovers, c'est ceux qui sont laissés en arrière, laissés derrière.
Laissés pour compte, ouais.
Voilà. Tout simplement, car un beau jour, 2% de la population, si je dis pas de bêtises, disparaît de la surface de la Terre, sans qu'on sache pourquoi, partout dans le monde, au même moment. Et donc, la série dépeint le quotidien des survivants, de ceux qui sont donc restés, et qui sont tous très touchés par cette disparition soudaine et mystérieuse. Et on se concentre précisément sur une petite ville, où, évidemment, si l'histoire s'attarde sur cette ville, c'est pas pour rien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de particulier lié à la disparition de toutes ces personnes qui se trouvent dans cette ville. Pour en savoir plus, il faudra regarder la saison 2. En tout cas, la saison 1 m'a beaucoup plu.
C'est marrant comme le hasard fait bien les choses. La ville que l'on suit dans la série, c'est là où il se passe le plus de trucs.
C'est dingue, hein.
Et un peu comme à Marseille. C'est la série où il se passe le plus de trucs d'après Plus belle la vie, quoi.
Bah, non, mais c'est quand même incroyable, quoi. Les scénaristes font bien les choses, hein.
Ouais. Oui, et bah, Marseille, d'ailleurs, il y aura bientôt une série, c'est quoi, c'est Netflix, non, qui veut tourner une série à Marseille?
Ouais. Ça s'appellera Marseille.
On va bien rigoler. En tout cas, pour The Leftovers, c'est une série assez particulière. Forcément, pour une série un peu atypique, on va tout de suite parler de Lost. Je la comparerai pas forcément à Lost, car même si on y retrouve des choses comme les flashbacks, on utilise évidemment beaucoup de flashbacks quand on parle de personnes qui ont disparu.
Ouais, et... ou qu'on retrouve Damon Lindelof aussi.
Oui, aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Et pour moi, c'est réussi. Cette série a une ambiance particulière, elle a un rythme assez lent, assez posé, et il y a un désespoir qui s'en dégage, qui touche. Franchement, elle m'a beaucoup, beaucoup ému, cette série. On peut voir comment aussi bien les adultes que les jeunes ont une façon chacun très particulière de vivre ces disparitions. Et on voit notamment l'émergence d'une secte dont le motus operandi est d'être habillé totalement blanc, de ne plus parler et de fumer comme des pompiers. Steve, si t'étais moins bavard, je pense que tu t'y plairais beaucoup. Et
ce que ça veut dire, ça, monsieur?
Non, bon, je troll, mais vraiment, c'est une expérience. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais vraiment, pour moi, ça a été la bombe de cet été. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'est tombé sur la gueule et je regrette pas d'avoir regardé. En plus, ça a duré 10 épisodes, si je dis pas de bêtises. Vraiment, regardez ça pendant le break si vous n'avez rien d'autre à regarder et soyez prêts pour la suite l'été dernier. Si c'est toujours aussi bon, ça enverra du lourd.
Et c'est renouvelé, pour une deuxième saison.
C'est renouvelé. Rappelons, c'est une série d'HBO.
Oui, c'est
vrai. Ça peut en dire aussi long sur l'ambiance et si on aime ou pas.
Oui, c'est clair. Il y a du cul.
Ouais. Et il y a des actrices qui sont.
Dit-il dans un rire pervers.
Non, les scènes de sexe sont justifiées et ne sont pas gratuites. Elles apportent quelque chose. Et même les quelques scènes de sexe qu'il y a sont filmées d'une certaine façon, d'une ambiance assez particulière. Alors vraiment, tout est bon. Il n'y a rien à acheter dans cette série.
Dernier petit point sur une des nouveautés de cette année que je n'ai pas eu le temps de voir malheureusement avant cette émission. Et encore une fois, une série d'ABC, putain, c'est horrible. Qui s'appelle How to Get Away with Murder. Qui est, en tout cas, vu les critiques que j'en ai lues, une très très bonne série. L'histoire d'étudiants en droit, je crois. Ou en criminologie, pardon. Qui, avec leur prof très intransigeante, vont finalement commettre l'irréparable, tuer un de leurs camarades et essayer de cacher le meurtre. Voilà.
Ça me rappelle un bouquin que j'ai lu il y a quelques mois, un vieux bouquin, mais je serais incapable de ressortir le titre, qui est un peu cette histoire-là, en fait.
Moi, ça me fait penser à Very Bad Thing, sauf qu'il y avait absolument pas des étudiants en meurtre dedans, en meurtre en criminologie.
Et justement, cette prof, hein, qui est très intransigeante, va permettre à certains d'intégrer sa firme très prestigieuse et ils vont devoir travailler très dur et être prêts à vraiment tout. Donc, il y a tous ces parallèles-là. Les critiques sont très bonnes, hein, sur cette série. J'ai vraiment pas eu le temps de la voir. J'espère avoir le temps de la rattraper assez vite. En tout cas, là, pour le moment, c'est en break, hein, depuis déjà un bon mois. Et ça reprendra fin janvier, hein, le 29 janvier. Donc, ça laisse encore un peu le temps pour essayer de rattraper cette série. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les séries de l'année. On va terminer très vite avec les choses à venir. Et des choses à venir, il va y en avoir encore pour cette rentrée de janvier, hein, cette rentrée de mi-saison. Pas mal de nouveaux projets, des projets intéressants. Nono. Puisque tu n'as pas dit grand-chose pour le moment, eh bien, vas-y.
Ouais,
bon. Annonce-nous les projets qui te font vibrer, ce qui te fait mouiller ton slip, hein, disons.
Alors, moi, il y en a deux particulièrement que j'attends avec impatience, mais je pense que comme nous trois, tous les trois, on les attend toutes ces deux séries. La première, c'est Agent Carter, qui va parler de l'agent Carter qui a été introduite dans Captain America 1 et qui aurait aimé être introduite par Captain America, mais il fallait que je la fasse, là, je suis désolé.
C'est sale, monsieur, c'est très sale. Je suis outré.
Oui, je sais. Donc voilà, c'est qui arrive là début janvier, mi-janvier il me semble, sur ABC.
Le 6
sur ABC, ouais.
je crois que c'est le 6 janvier, si je dis pas de bêtises.
Le 6 janvier, ouais.
Ouais, donc voilà, donc allons voir ce que ça va donner, une petite série rétro d'espionnage.
Série aux 8 épisodes. Hein.
Oui, série très courte. Donc pourquoi pas. Ensuite, celle que j'attends vraiment avec impatience, c'est Daredevil. en mai qui arrive en
ouais,
mai.
Alors apparemment ce serait en mai d'après ce qu'on a pu voir, ouais. On n'a pas de date officielle, mais bon, série Netflix, cette forte chance que tout soit disponible d'un coup.
Oui, bah oui, comme beaucoup de séries Netflix. Donc c'est les premières images qu'on a vues, parce que pour l'instant on a vu que quelques photos, ont l'air d'être assez badass. Maintenant, à voir. Vu que c'est Netflix, j'ose espérer que ils vont le faire assez dark, le Daredevil.
Après, ce sera donc Daredevil.
Daredevil. La série qui me donne une demi-molle, on va dire, ça va être iZombie. et que j'irai voir juste, bah voilà, parce que c'est une série de comics. Mais n'ayant jamais lu le comics, pourquoi pas.
Bah, à la rigueur, oui, tu auras peut-être moins de points de comparaison.
Ouais.
Rappelons que c'est la CW qui l'adapte.
Ouais.
Mais qu'on a Rob Thomas derrière, celui qui a fait notamment Véronica Mars.
Ouais, donc pourquoi pas, voilà, c'est les trois séries que j'attends. Les autres, je vais vous laisser parler pour les autres. Il y a Powers également qui arrive théoriquement en fin d'année, pour reprendre la blague de Marty qu'il avait fait hors antenne. Voilà, s'il se base sur le comics, on n'est pas prêt de l'avoir arrivé.
Ah, ça a même déjà commencé, vu que c'était prévu sur le PlayStation Network pour décembre 2014.
Ouais, bon, il nous reste 8 jours, hein.
Ah, bah. Sait-on jamais, petit cadeau de Noël.
Ah ouais. Mais bon, on n'y croit pas des masses, mais
Ouais, ça, c'est certain. D'autres séries que l'on attend, Marty?
Pour ma part, je vais reprendre exactement celle de Nono, en fait. Je les attends toutes, notamment Agent Carter, ça m'intéresse beaucoup. Et puis évidemment Daredevil avec Vincent fucking D'Onofrio dans le rôle du Kingpin. Comment on ne peut pas en avoir, non pas une demi-molle, mais une dure complète qui te troue le slip, tellement ça risque d'être bon. Surtout que les premières photos nous montrent un Daredevil dans son pré-costume façon Frank Miller. On voit qu'ils sont allés chercher du côté des bonnes sources pour adapter cela. Prends ça dans les dents, le film de 2003 avec Ben Affleck. Et bon, c'est... Oui, enfin, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. C'est exactement les séries que j'attends. Ah oui, et il y a évidemment, pas comics du tout, mais il y a Better Call Saul, qui évidemment m'intéresse beaucoup, vu que je dis évidemment que vous le savez pas, mais je suis en train de rattraper Breaking Bad. Honte à moi, j'ai mis du temps à m'y mettre.
Mais tu sais que j'ai vraiment... toujours pas fini la saison 2. J'aime bien, mais dans la mesure où c'est super lent, je prends vraiment mon temps pour la regarder, et je regarde ça quand j'ai plus rien d'autre. Donc,
Écoute, j'étais comme toi, j'étais bloqué au début de la saison 2, et cet été je me suis remis. Et là, d'un coup, je sais pas, il y a eu le déclic, il s'est passé quelque chose pendant la saison 2, et je suis pas le seul à le dire, d'autres personnes m'ont dit que pour eux c'était pareil. Et là, dès que j'ai le temps, je me mate un épisode par-ci par-là, dès que les séries actuelles, j'ai un petit trou dans ce que je regarde. Et comment ne pas avoir envie de regarder une série consacrée à Saul Goodman, tellement ce personnage est génial.
Je l'ai même pas encore rencontré dans la série, donc...
Le meilleur reste à venir pour toi. Ah, c'est précisément quand Saul arrive en grande partie que j'ai apprécié la série. Donc ça explique aussi mon enthousiasme et mon envie de rattraper tout ça avant que ça commence.
D'autres séries qui m'intéressent, en tout cas pour ma part, il s'agit de CSI Cyber. Alors je ne suis plus les séries CSI depuis très longtemps.
Ah, mais c'est une énième série CSI, quoi.
Oui, mais Cyber. Et elle va s'intéresser aux crimes virtuels qui sont à la fois virtuels, mais qui ont aussi lieu dans le réel. Et puis, au casting, on a quand même Patricia Arquette, James Van Der Beek et Peter McNichol.
Dawson ?
Ouais. Et qui, quand on le voit dans d'autres projets, est très très loin de son personnage de Dawson. Il y a bien longtemps que, pour moi en tout cas, il a dépassé cette image. Puis donc Peter McNichol, qu'on avait pu voir dans Annie McBeal, hein, notamment.
Oui,
magnifique personnage dans Annie McBeal, superbe acteur.
Oui. Donc, et puis dans Ghostbusters 2 aussi.
Inoubliable.
Vigo.
Vigo des Carpates.
Voilà. Non, j'ai vraiment envie de voir parce que, cette équipe m'intéresse, et puis, une équipe qui lutte contre la cybercriminalité, ça change du classique CSI, entre le Las Vegas, le Miami, le New York. Voir comment ils vont faire évoluer les choses. Donc, j'irai au moins voir le premier. Ça débarque en mars. Je pense qu'ils ne croient pas des masses à la série. C'est pour ça qu'ils le programment qu'à la mi-saison. On verra. En tout cas, ça m'intéresse assez pour aller vérifier. Autre série qui m'intéresse, en tout cas sur le papier, il s'agit de Battle Creek, une autre série de CBS, qui est en fait Apparemment, en tout cas, sur le papier, c'est décrit comme un espèce de flic qui serait un peu Dr. House. Il va y en avoir un autre un peu dans le même esprit, on en parlera tout à l'heure.
Et donc, ce flic, ce ne sera pas Mickey Mouse, pour reprendre les paroles d'un grand chanteur animateur français.
Non, mais tu pouvais juste rien dire. tu pouvais juste couper ton micro à ce moment-là, en fait. C'était... donc, l'inspecteur Russ Agnew, qui est joué par Dean Winters. Dean Winters qu'on a pu voir dans beaucoup, beaucoup de séries, hein, comme Rescue Me, comme 30 Rock, comme Brooklyn Nine-Nine, où il passe en tant que guest star aussi. Et surtout dans Oz, qui jouait le Ryan dans Oz.
Ah putain, Oz. Qui...
Voilà. Vous voyez cet acteur, qui est donc un inspecteur qui n'a pas une bonne réputation, qui est un mec soi-disant insensible, méchant, etc. Personne ne veut faire équipe avec lui, sauf un agent du FBI qui vient débarquer dans cette ville et aider cette équipe mal en point. Et ils vont devoir faire équipe. Je sais pas, le pitch me paraît assez intéressant pour aller voir l'inspecteur qui débarque étant Josh Duhamel, qu'on a pu voir dans Las Vegas.
Ouais. Et dans Transformers.
Ah, j'avais oublié cette référence.
Oui, c'est, il jouait le militaire dans le chef, le héros militaire de Transformers.
C'est peut-être parce que j'en ai vu aucun de Transformers, c'est peut-être pour ça.
Peut-être.
Ah, le premier se laisse regarder vaguement d'un œil si on a débranché son cerveau et qu'on a retrouvé celui qu'on avait quand on a 6 ans.
Je t'avouerai que j'ai déjà du mal à regarder des séries, alors imagine de me laisser aller devant un film qui fait plus de 2h30, non quoi. C'est juste non, en fait. Bref, en tout cas, ça m'intéresse d'aller voir au moins le premier, voir ce que ça peut donner, une bonne série de flics, le genre de truc qui permet de bien passer le temps, quoi.
Ah mais ça me fait penser, on a oublié de mentionner, enfin j'ai oublié de mentionner dans celle que j'attends à tout prix, niveau flic, True Detective saison 2.
Ah mais oui, bien évidemment.
Comment on a pu passer à côté?
Eh oui, mais complètement, alors celle-là... Voilà, c'est Netflix en plus, il me semble, True Detective.
Non.
Non?
Je crois pas. Je vais vérifier en même temps, mais je ne crois pas.
Non, peut-être pas, non. Mais c'est vrai que c'est une série, voilà, la première saison était tellement énorme que la deuxième saison, on l'attend avec plus d'impatience, quoi.
C'est du HBO.
Ah oui, HBO.
Avec un casting juste hallucinant, vu qu'on aura Colin Farrell, Vince Vaughn. C'est deux acteurs que j'aime beaucoup, même s'ils ont énormément de casseroles à leur actif. Et j'ai hâte de les voir. Surtout Vince Vaughn jouera le rôle d'un mafieux, si je dis pas de bêtises. Franchement, ça me donne envie, surtout vu comment la première saison était énorme.
Ouais. Et puis Colin Farrell jouera son tueur à ce mafieux, hein, qui a une cible sur le front. Oui, j'aime bien mettre des tacles faciles.
Et il montera à cheval également.
Ah, alors là, par contre, je ne vois pas la référence.
Ah ben, c'était lui dans Alexandre, il me semble, non?
Ah oui, tout à fait.
Enfin, où il tentait de monter à cheval plutôt dans les souvenirs que j'ai.
C'est-à-dire que moi, j'en suis resté à Colin Farrell qui était...
Bullseye.
Qui était Bullseye, ouais. Alors qu'il était si bon dans Phone Booth.
Ouais.
Il était si mauvais en Bullseye.
Oh bon, il n'était pas aidé par le scénario.
Mais par la direction aussi, je pense.
Pas partout.
Autre série qui m'intéresse beaucoup, une série de CBS encore. Alors autant j'ai du ABC en début d'année, j'ai beaucoup de CBS en fin d'année. Ça s'appelle The Odd Couple. C'est un projet de Matthew Perry avec Matthew Perry, donc je vais regarder. Point. Voilà, ça ne s'explique pas. Je vais voir tous ses projets parce que ce mec me fait marrer malgré tout, et même s'il a du mal à avoir des projets qui marchent.
Ouais.
C'est l'an dernier qu'il a sorti une série qui n'a pas marché, ou c'était il y a 2 ans, je ne me rappelle plus.
C'était il y a 2 ans, Go On, qui a eu une saison unique. Et dommage parce que la série n'était pas si mal que ça. Avant, il avait tenté Mr. Sunshine, qui n'avait pas marché non plus. Et encore avant, il avait tenté Studio 60 on the Sunset Strip, qui n'avait pas marché non plus. Non, mais il a vraiment, vraiment pas eu de bol hein, sur toutes les séries qu'il a tentées, dans lequel il était le rôle principal. En général, elles n'ont fait qu'une saison. Mr. Sunshine a fait même une demi-saison, puisqu'elle a été annulée très rapidement.
Ouais.
Bref. Moi, j'irai quand même voir l'histoire de deux divorcés qui ont passé la quarantaine, qui ne se sont pas vraiment remis de leur divorce et qui vivent ensemble. Voilà. Et qui passent leur temps à se chamailler. Un truc vraiment classique, un sitcom classique, mais voilà.
Mais avec Matthew Perry.
Mais avec Matthew Perry, donc ça me fait rire de se voir. Et enfin, le petit dernier, c'est Backstrom, série de la Fox, avec Rainn Wilson en rôle principal. Oui, Rainn Wilson de The Office.
Ah oui, d'accord. Je disais, ce nom me disait quelque chose.
Et oui, qui joue Dwight dans The Office et qui est là, est un connard. Fini. Un chef de la brigade des homicides de Portland qui, agressif, irascible, alcoolique. Bref, c'est un sale con. Et, bah voilà, on va le suivre. On va suivre ce sale con. Parce que lui, c'est vraiment un sale con, mais il a des très bons équipiers. Et la série a l'air complètement tarée, et j'ai envie d'aller voir ce que ça donne, quoi. Puis voir Rainn Wilson dans un autre rôle.
Ouais.
Ça me donne envie, quoi. À savoir que derrière, on a un des créateurs de Bones, hein, qui est en créateur de la série. On a aussi Denis Seybert, qui joue dedans. On a pu voir, qui était le président, hein, dans 24.
Ouais. Mmh.
Voilà, le président David Palmer, qui joue aussi dans The Unit, entre autres. Donc vraiment une petite série qui devra débarquer, qui débarque le 22 janvier. Et vraiment, j'ai envie d'aller voir ce que ça va donner. Voilà.
Mais écoute, ouais, soit.
Enfin, des séries que je n'irai pas voir. Il s'agit de 12 Monkeys.
Celle-là, j'irai la voir, mais juste par curiosité. Et je pense que ça va être une curiosité mal placée.
Ouais, pareil. Je peux pas m'empêcher de pas aller voir ce truc, mais j'ai peur.
Ouais, j'ai très très peur, mais j'irai la voir, c'est sûr et certain. J'ai tellement adoré le film que je ne peux pas ne pas aller voir cette série, en fait.
Je sais pas, moi j'ai du mal avec même Sleepy Hollow, hein, je l'ai pas commencé parce que ça m'inquiète. Pourtant ça m'en dit beaucoup de bien.
Ouais, c'est vrai, ça m'en dit du bien, et moi non plus j'ai pas commencé cette série.
Pareil, ça m'inspirait rien du tout, surtout vu le fait que que le héros est transporté depuis le 19e siècle de notre époque, je me suis dit oh non, j'aurais préféré une série d'époque plutôt. Et vu ce que ça m'en dit, peut-être que un jour, qui sait, si j'ai hypothétiquement du temps libre, ouais, voilà, c'est ça. Quand le docteur Wu me prêtera son TARDIS, peut-être que je pourrais, mais là.
Ouais.
Donc moi je sais pas, ces adaptations, enfin cette nouvelle mode d'adapter des films en série, bon,
on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, parce que l'Armée des Douze Singes, si c'est bien retravaillé, mais après c'est casse-gueule, les voyages dans le temps, c'est toujours casse-gueule, surtout que là on a quand même le paradoxe de prédestination, donc c'est vraiment maniaque précaution. Mais bon, et puis passer après Terry Gilliam, c'est risqué aussi.
Ouais,
oui, surtout. Aussi.
Même si c'est bon, si c'est pas aussi bon, ça décevra forcément.
Enfin, je sais pas. En plus, c'est sur sci-fi. Enfin, franchement, au niveau moyen, c'est pas ça. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui font que la série se sent pas très très bon d'avance, quoi. Je suis d'accord de laisser la chance, mais là, enfin, ça m'attire pas des masses, quoi.
Il me semble qu'en premier changement, ils ont déjà annoncé que le personnage qui est incarné par Brad Pitt sera une femme dans cette version.
Si ça commence.
Ouais, ça commence bien.
Ouais.
Ça commence, puis franchement, au casting, il y a rien de folichon, quoi.
Ça, c'est clair. Bon, en même temps, passer après Bruce Willis et Brad Pitt, là aussi, encore une fois.
Non, mais attends, t'as des séries, comme je citais tout à l'heure, CSI et Cyber, qui peuvent marcher déjà, ne serait-ce que sur leur casting, ou même NCIS New Orleans, va marcher avec un Scott Bakula en chef d'équipe.
Oui, bien sûr.
Tu vas avoir envie d'aller voir à cause des acteurs. Là, franchement, ils sont pas bandants, les acteurs, quoi.
Non.
Dans les plus connus, il y a quoi? Il y a Kirk Acevedo, quoi.
Ah ouais, bon. C'est vrai qu'il est bien sympa, Kirk Acevedo, dans Fringe, mais il déplace pas les montagnes non plus.
Ouais, il était très sympa dans Oz aussi, quoi, mais voilà, le mec, il passe, il fait pas grand chose, quoi.
Ouais.
C'est un peu. Voilà, je suis un peu déçu. En tout cas, il y a encore du bon à venir. Il y a pas mal de bonnes séries cette année. Moins que les années précédentes, c'est peut-être pas plus mal. Beaucoup de séries qui s'arrêtent aussi, hein, beaucoup de séries annulées assez rapidement. Les networks sont un peu frileux. Ouais.
Ce que je retiendrai quand même, c'est les très bonnes surprises niveau série comics. Que ce soit que ce soit aussi bien celles qui ont commencé que celles qui continuent. Il n'y en a aucune finalement que je trouve mauvaise.
Ben, il y en a surtout aucune d'annulée. Ça, c'est la grosse surprise. Et je pense que, malgré les audiences pas toujours très bonnes, les comics sont tellement bankable qu'ils veulent pas annuler les séries. Parce que ce serait un aveu d'échec. Et comme chaque network a sa série comics, en annuler une, ça ferait tâche.
Oui, surtout vu toutes celles qui sont annoncées sur les networks qui n'en ont pas encore.
Oui.
Parlons des Supergirl, etc. Les Preacher, toutes ces autres séries qui arriveront pour la rentrée d'après, ou encore plus.
Ou les séries Netflix aussi. On a parlé d'Ardivel, mais on a Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones.
Jessica Jones, ouais, qui arriveront.
plus tard.
Ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, voilà. Il faudrait que certaines séries s'arrêtent quand même, parce qu'à un moment on va plus pouvoir.
Bah, on se dirige quand même vers des mini-séries aussi, comme Agent Carter. A priori, c'est qu'une saison, sauf très bonne surprise. Les séries Netflix, ce serait peut-être aussi qu'une saison. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal de creuser vers cette voie-là aussi.
Ouais, enfin, c'est qu'une saison qui, quatre séries qui auront une saison chacune et qui culmineront dans The Defenders.
Oui.
Avec des possibilités peut-être de pouvoir continuer.
Ah, je les verrais bien creuser et introduire d'autres personnages ensuite avec le retour peut-être de ceux déjà introduits. Quoique bon, Daredevil, avec son côté tête de pont, je pense qu'on peut tabler aussi sur une saison 2.
C'est ce que laissait sous-entendre le showrunner, en tout cas, dans une des dernières interviews qu'il avait accordées. Ouais. En tout cas, vraiment une rentrée sympathique avec toujours autant de séries à suivre. N'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires des choses qui vous ont plu cette année, qui vous ont marqué, des choses aussi qui vous auraient peut-être déçu. Parce que des fois, certaines séries nous déçoivent avec leur reprise. Le cas de Sam avec Castle, par exemple.
Oui.
Et puis, il y a d'autres cas qui me viennent pas forcément là en tête, mais d'autres séries qui sont décevantes avec une nouvelle saison, nouvelle direction, etc. Bref, j'espère que ce spécial vous aura plu, ce spécial série aura répondu à vos attentes. En tout cas, merci à Nono et à Marty de m'avoir accompagné pendant cette petite heure et demie pour vous présenter toutes les petites séries, les petits guilty pleasures que l'on fait quand on fait autre chose que lire les comics.
Tout le plaisir était pour nous.
Mais c'est toujours un plaisir.
Et malheureusement, je crois que l'année prochaine, quand on ne lira plus de comics, on va les regarder.
Ouais, c'est ça. C'est à un moment, comme je disais, il va falloir faire des choix, quoi. Déjà là, ça devient compliqué de tout suivre. Tu nous as dit tout à l'heure combien d'épisodes tu avais en attente, Steve.
Juste dans les séries en cours, oui. Ouais, bah, 500, je vais reprendre le chiffre, je vais vous donner le chiffre exact. 512, je crois, quelque chose comme ça. 513.
C'est pas mal.
Mais puis bon,
et ça ne sont que les séries en cours, je ne compte pas les séries en attente.
Ouais. Oh, mais bon, de toute façon, vu que les comics se mettent de plus en plus au diapason avec les films.
J'ai exactement 48 séries en cours, 285 en attente.
Putain.
Ça fait de belles vacances.
Voilà. j'espère que les Google Glass arriveront bientôt, que je puisse aller au travail avec les Google Glass et que je puisse mater des séries en même temps, sans que ça se voit.
Putain, ça serait génial, ça.
Avec le son qui passe par la tête, personne n'entendra que j'écoute autre chose. Ah, ce serait un nouveau moyen. Netflix sur tes Google Glass.
Oh là là, le pied.
Bref, 2015, tout est permis, les voitures volantes, les overboards.
Ah oui, on y croit.
Et les almanachs. Les sports.
Ouais, surtout. Surtout, en fait. Surtout ça.
On vous souhaite en tout cas de joyeuses fêtes. Et puis, bien sûr, retrouvez-nous dès la rentrée pour le retour des émissions classiques. Le Weekly News le mercredi sur Synops Live en direct. Le Comics Weekly tous les samedis matins. Et puis, le Comic City une fois par mois, le troisième vendredi du mois en direct sur Synops Live.
Et surtout, bientôt, les Comic City Awards.
Et oui, très 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 bientôt. Au moment de la diffusion de ce podcast, ce sera d'ici 2 ou 3 jours. De toute façon, vous aurez déjà eu les infos sur les réseaux sociaux qu'il faut suivre, comme la page Facebook ou le Twitter @ComicCity. Et puis nous envoyer des mails, vous pouvez à l'adresse. Oui, je parle à la Yoda. Nous envoyer des mails, vous pouvez. Putain, oh la vache.
Et n'oubliez pas de voter.
Oui, là, ça va être. Oui, il vous reste 2-3 jours pour voter, hein. Mais.
Il me semblait que Steph avait dit que les anciennes étaient encore dispo.
Oui, mais il vous restera que 2-3 jours au moment où cette émission sera diffusée, donc votez vite. Et donc les mails, c'est podcast@comiccity.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt. D'ici là, très bon réveillon du premier de l'an et amusez-vous bien.
Tout pareil, mais en mieux.